VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Dakar, 18h à Libreville. Bienvenue à notre journal. Au Gabon, l'heure est à la formation de nouveau gouvernement suite à la nomination par le président Ali Bongo Ondimba du ministre des Affaires étrangères sortant Emmanuel Issozen Gondé au poste de Premier ministre. Sa mission, former un gouvernement d'ouverture. On écoute Emmanuel Issozen Gondé.
Le président de la République, chef de l'État, vient de me confier la charge de Premier ministre, chef du gouvernement. C'est une très haute marque de confiance qui m'honore et qui m'oblige. Le sentiment de profonde gratitude qui m'habite en ce moment m'engage à tout mettre en œuvre pour mériter cette confiance et être à la hauteur de ses attentes. La composition du nouveau gouvernement sera rendu public le dimanche 2 octobre. J'ai été instruit de proposer au chef de l'État un gouvernement largement ouvert. C'est un gouvernement d'ouverture, largement ouvert aux forces vives de la nation, qui répondent aux exigences d'une République plus juste et plus solidaire.
Le Premier ministre gabonais Emmanuel Issozen Gondé. Au Burundi, Gervais Niyongabo, le chef d'un parti d'opposition et l'un des derniers éminents opposants à être resté dans le pays, a été arrêté hier à Makamba dans le sud pour atteinte à la sûreté de l'État. Les détails avec Nani Talani.
Président d'un parti et membre du CNARED, la principale coalition d'opposition au Burundi, Gervais Niyongabo a été arrêté selon la police pour participation à des bandes armées et atteinte à la sûreté de l'État. Il est actuellement détenu à Bujumbura par le Service national de renseignement, a précisé le porte-parole de la police, Pierre Nkouri Kiyé. De plus, depuis deux semaines, 8 policiers et 15 militaires ont été arrêtés pour les mêmes motifs, a-t-il ajouté. Le pouvoir burundais accuse le CNARED, la principale plateforme d'opposition, d'être lié à une tentative de coup d'État en mai 2015 et aux violences qui frappent le pays depuis lors. De son côté, l'opposition accuse le pouvoir de cibler des soldats issus de l'ancienne armée dominée par la minorité Tutsi. Plusieurs d'entre eux ont déjà été exécutés depuis le début de la crise en avril 2015. Les violences ont fait plus de 500 morts et poussé près de 300 000 personnes à quitter le pays.
Rwanda, un universitaire et ancien dirigeant syndical rwandais recherché depuis 12 ans pour son implication présumée dans le génocide de 1994, a été extradé mercredi des États-Unis vers le Rwanda. Les précisions de Nathalie Barge.
Léopold Munyakazi, qui nie avoir participé au génocide, était détenu dans l'Alabama après le rejet de sa demande d'asile aux États-Unis, où il vivait depuis 2004. En 1994, il était secrétaire général de la Centrale syndicale des travailleurs du Rwanda. Il avait été détenu au Rwanda pour participation présumée au génocide avant d'être relâché et de gagner les États-Unis où il enseignait le français. Kigali a émis deux mandats d'arrêt à son encontre en 2006 et 2008. Il disait être poursuivi pour ses opinions politiques hostiles au régime actuel. Le parquet conteste sa version et le poursuit pour génocide et crimes contre l'humanité. Une dizaine de Rwandais ont déjà été renvoyés à Kigali, principalement en provenance des États-Unis, du Canada et de l'Ouganda.
RDC, deux hauts responsables des services congolais de sécurité font l'objet de sanctions financières de la part des États-Unis depuis hier. Le point avec John Lyndon.
Le major général Gabriel Amissi Kumba, commandant des forces armées du pays, ainsi que le général John Numbi, ancien chef de la police nationale, ont été placés sur la liste noire du Trésor américain. Leurs avoirs éventuels aux États-Unis seront gelés et il est interdit à tout ressortissant américain de réaliser des transactions avec ces individus, indique John Smith, directeur en exercice de l'Agence du Trésor. Ces mesures sont annoncées alors que la RDC vient de connaître une nouvelle flambée de violence. Le général Amissi Kumba est accusé d'avoir commandé des unités des FARDC dans la répression de manifestations politiques. Washington cite aussi l'usage de forces excessives et d'armes létales pendant des manifestations, particulièrement en janvier 2015. Pour sa part, le général John Numbi est accusé d'avoir usé d'intimidation violente en mars dernier lors d'élections pour s'assurer la victoire de candidats affiliés à la coalition du président Kabila.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Burkina Faso, le président burkinabé Rochmar Christian Kabore a installé ce jeudi à Ouagadougou les membres d'une commission constitutionnelle qui doit produire dans les 60 prochains jours une nouvelle constitution pour le passage du pays à la 5e République. La future charte fondamentale vise à mettre fin à la 4e République que les Burkinabés identifient au régime du président Blaise Compaoré, renversé le 31 octobre 2014 par une insurrection populaire après 27 ans de règne. Bénin, la décentralisation connaît des heures difficiles et l'actualité est régulièrement manquée par des menaces de destitution de certains maires, dont plusieurs ont déjà fait l'objet d'un vote de défiance de la part des mêmes conseillers qui les avaient portés à la tête des municipalités. Plus de détails avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
13 ans déjà, mais le processus de la décentralisation au Bénin balbutie et ne progresse nullement. Plusieurs maires ont perdu leur fauteuil pour abus de confiance, détournement de fonds, gestion opaque et bien de subterfuges contenus dans la loi qui régit la décentralisation dans le pays. Le Social Watch, à travers son président, s'est d'ailleurs prononcé sur la question en appelant les acteurs à accompagner au mieux le processus de la décentralisation au lieu de le détruire par voies et moyens.
Social Watch Bénin attire l'attention de tous pour que la réaction soit sans appel pour arrêter la démarche. Si tant est que les destitutions actuelles ne sont que des effets de représailles post-élection que les nouvelles autorités attisent dans leur seul but de satisfaire des intérêts partisans. La décentralisation est bien une gestion politique, mais elle ne doit pas être banalisée juste pour des questions de guéguerre politique.
Sur la question, le juriste Serge Prince-Agboudian y voit l'instabilité de la loi, mais aussi la politisation à outre. Nos communes.
Le comportement du Béninois est toujours le même. Lorsque vous lui donnez la possibilité d'exercer un pouvoir, il l'exercera jusqu'au bout. Et c'est ça la difficulté. Le contexte d'élection des maires ne favorise pas la stabilité de ces élus-là. Voyez-vous, ils fabriquent des majorités plus ou moins instables pour se faire élire. Ensuite, il y a des cas où c'est l'autorité politique qui impose celui qui doit prendre. C'est la conséquence de ce que nous-mêmes nous avons fait et je crains que ça n'embrasse toutes les communes du Bénin.
Souleymane Yerima est un spécialiste des questions de développement local et de décentralisation. Il pense, lui, que le balbutiement de la décentralisation est dû au fait que le Béninois a encore du mal à internaliser le processus pourtant vieux de 13 ans.
Le processus est aujourd'hui en difficulté parce que nous avons copié l'ensemble des tares qu'on avait au niveau national. La corruption, la mauvaise gestion, le clientélisme, les fonctionnaires trop corrompus, trop puissants. On a copié tout ça à la base alors que nous sommes dans une nouvelle dynamique où on devait avoir des administrations de services qui s'occupent des besoins des populations au lieu d'être des administrations qui vraiment martyrisent les citoyens, qui vraiment se nourrissent aux dépens des populations pour lesquelles elles sont là.
Cette instabilité observée dans la gestion des communes est un frein certain au développement local, puisque rare selon les partenaires techniques et financiers qui voudront y investir. Et c'est en cela que les réformes tant promises par le chef de l'État sont attendues pour sonner la fin de cette pagaille qui tend à se généraliser. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Les relations entre Washington et l'Arabie Saoudite se sont brusquement tendues après le rejet hier par le Congrès américain du veto du président Barack Obama sur une loi autorisant les proches des victimes des attentats du 11 septembre aux États-Unis à poursuivre en justice l'Arabie Saoudite. Les précisions de Claire Morin-Gibourg.
C'est un coup de poignard dans le dos. La formule choc utilisée par l'Arabie Saoudite illustre bien la colère des Saoudiens. Riyad est un allié de longue date des États-Unis. Ce vote hostile du Congrès pourrait impacter cette coopération, notamment dans le contre-terrorisme. Salman Al-Ansari, président de la SAPRAC, un comité privé pour la promotion des relations saoudo-américaines, prévient même « J'ai peur que cette loi, irréaliste et irréfléchie, ait des implications stratégiques catastrophiques. Comment pouvez-vous poursuivre un pays qui collabore contre ce même terrorisme dont il est accusé sans fondement ?» s'interroge-t-il. 15 des 19 auteurs des attentats du 11 septembre étaient des ressortissants saoudiens, mais la responsabilité de l'Arabie saoudite n'a jamais été démontrée. Pour sa part, le président Barack Obama a qualifié d'erreur ce camouflet du Congrès américain.
Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.